comme tous les mardis à 11h10, on va rejoindre Patrice Saint-Pierre, évidemment, pour notre chronique de la FADOC. Allô, Patrice!
Bonjour, Annick.
J'ai le goût de crier victoire. On a avancé pour les locataires aînés.
Oui, bien, en fait, c'est une excellente nouvelle qui a été annoncée la semaine passée par le ministre Durand-Lau. Donc, le projet de loi qu'on connaissait auparavant sur le projet de loi la Françoise David, qui avait été adopté en 2016, a été un peu élargi suite à de nombreuses représentations qu'on a faites. On avait eu l'occasion d'en parler dans nos chroniques précédentes.
Absolument.
La première victoire, c'est que premièrement, l'âge a été abaissé pour les personnes qui vont être protégées. Donc, on se rappelle, là, c'est contre l'éviction des personnes qui demeurent en logement. On sait que la pression actuellement sur le marché locatif fait en sorte qu'il y a de nombreux propriétaires qui sont tentés de faire des reconversions ou tout ça pour différentes raisons et que souvent, c'est des aînés qui vont écoper, qui demeurent là depuis 10 ans. Donc, les personnes de 65 ans et plus qui habitent dans leur logement vont dorénavant être protégées. On se rappelle qu'auparavant, c'était 70 ans. Puis, il y a aussi une nouvelle intéressante, c'est qu'on a touché à la question du seuil de revenu. Comme le seuil de revenu a été rehaussé, ben on va avoir également un plus grand nombre de personnes qui vont être protégées. Donc, c'est intéressant. On sait que c'est un moratoire pour les 3 prochaines années. Le seul bout, en fait, là, qui est pas allé jusqu'à l'aspect là, de toutes les demandes qu'on avait faites, c'est qu'on demandait aussi qu'on puisse avoir un abaissement
du
nombre d'années.
Ben oui.
C'est ça exactement, à 5 ans. La ministre là-dessus a conservé le 10 ans. Donc, mais en tout cas, on a quand même fait un pas dans la bonne direction. On va avoir une augmentation du nombre de personnes qui vont être touchées. Puis surtout, ça va faire en sorte que les gens qui pouvaient être tentés là, d'évincer rapidement des aînés vont y penser à 2 fois, considérant que maintenant la loi est présente et va avoir son incidence.
Absolument. Puis, tu sais, dans le fond, pour tout ça, c'est 3 ans en ce moment, hein? C'est ça, hein?
Oui. Donc, exactement. Ça fait que tout ça va être... de toute façon, il va y avoir beaucoup là, d'informations. Le projet de loi officiel va être adopté. Par la suite, on va avoir...
On va voir comment ça va se passer.
C'est ça par rapport au déploiement, exactement.
Ah, les habitations intergénérationnelles, vous continuez de travailler là-dessus pour faciliter la vie des citoyens et des citoyennes?
Oui, bien, écoute, ce qu'il faut voir aussi, c'est que naturellement, à l'intérieur du projet de loi, il y a eu des informations qui pour lesquelles nous, on dit, dans le fond, au gouvernement, oui, c'est naturellement important de faire un moratoire, mais il faut aussi s'interroger sur tout ce qui est des questions de l'hébergement privé pour aînés, l'hébergement privé et public, puis ça touche notamment les maisons intergénérationnelles. Bon, à l'égard des maisons intergénérationnelles, ce qui est bien certain, c'est que une des problématiques qu'on a encore pour plusieurs secteurs, c'est qu'on a des modifications au règlement d'urbanisme qui sont nécessaires. Donc, parce qu'il y a encore des territoires actuellement où les adaptations n'ont pas été faites. Et ça fait en sorte que des familles qui voudraient éventuellement s'orienter vers ce type d'hébergement-là peuvent pas le faire compte tenu des exigences municipales. Il y a aussi beaucoup de défis. On en a déjà parlé dans une chronique précédente aussi par rapport aux maisons intergénérations. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a à regarder demain comment l'hébergement va être fait pour l'ensemble de la population, mais particulièrement pour la clientèle qui avance en âge, parce que, hein, on se le rappelle, 2066, on va avoir 44 000 centenaires. Donc, et ça veut dire toutes les strates de population d'âge qui vont être aussi en dessous de ça. Bien, on les héberge de quelle façon? Dans le public, dans le privé, avec service, sans service. On a déjà un panier actuellement de services qui est offert avec des ressources intermédiaires, avec des ressources privées, des résidences privées, des maisons des aînés. Est-ce que tout ça va tenir la route pour les prochaines années? Il y a des équations à faire qui sont importantes, puis le marché privé va faire partie de cette équation-là encore d'une façon plus substantielle dans les prochaines années.
Il y a un gros travail à faire de ce côté-là. Maintenant, il y a des gens malhonnêtes partout, Patrice, et il y a des arnaqueurs qui jouent sur les sentiments des gens qui sont à la recherche de logements.
Oui, puis ça, ce qui est intéressant, c'est que j'en profitais pour, comme il y avait un lien direct, la Société d'habitation du Québec a comme fait un site avec différentes informations, des mises en garde également, notamment là, de ne donner aucun acompte ou paiement à la signature d'un bail, parce qu'on sait que souvent il y a des gens qui vont partir avec l'argent. De s'assurer aussi dans la négociation des logements que vous voyez, de toujours vous assurer qu'en réel ceci existe. On a vu à la télévision là, dans les derniers mois là, des gens qui se sont fait aussi attraper là, dans le secteur 5D des étudiants. Donc, la société d'habitation fait un rappel là, par rapport à la façon de définir ses besoins. Puis aussi qu'on peut faire appel, et ça, c'est, je pense que peut-être plusieurs ne sont pas au courant, là, faire appel à un office d'habitation qui offre un service d'aide à la recherche de logement. Et on vous a partagé sur notre site, notre page Facebook, cette information-là qui permet aux gens, dans le fond, là, d'avoir de l'aide, du soutien, qui sont à la recherche d'un logement. Donc, parce qu'on sait que les offices municipaux d'habitation ont un mandat dévolu pour les personnes à plus faible revenu de les héberger. Mais là, on a élargi un petit peu leur mandat en leur demandant d'offrir un soutien également aux aînés qui pourraient être à la recherche d'un logement. Donc, je pense que c'est très, très intéressant là, ce qui est fait actuellement. Donc, toutes les coordonnées, les informations se trouvent sur notre page Facebook. Vous avez des liens, les numéros de téléphone correspondants pour différentes MRC ou municipalités qui ont des offices municipaux d'habitation puis qui peuvent vous offrir cette aide-là. Je le rappelle, c'est grâce au concours de la Société d'habitation du Québec.
Maintenant, il y a une conférence intéressante qui va être présentée, si j'ai bien compris, trois fois. C'est 10 stratégies financières à connaître avant 65 ans.
Oui, c'est en fait cette conférence-là, elle est offerte par la FADOC avec son partenaire Beneva pour les personnes de 50 ans et plus qui, dans le fond, commencent à envisager l'aspect de la retraite. On sait qu'il y a différentes stratégies qui sont importantes au moment de la prise de retraite. Ces stratégies-là doivent être, plus on les prend tôt, mieux c'est. Mais il y a aussi, vers les dernières années, des éléments qui sont importants là, par rapport à des décaissements qui doivent être faits ou non. Donc, quelles sont les meilleures stratégies là, avant de ma prise de retraite, ma sortie du marché du travail ou encore ma réintégration, parce qu'on peut avoir actuellement, avoir pris une retraite à 60 ans, puis dire, bon, ben moi, j'ai peut-être encore un intérêt à peut-être retourner sur le marché du travail.
Oui, il y a des gens qui s'ennuient en plus.
Voilà, exactement. Donc, Beneva va offrir cette conférence-là. Il y a trois plages horaires qui sont offertes, le 29 mai à 16h30, le 4 juin à 19h et le 20 juin également à 19h. Les inscriptions sont possibles à partir du fadoc.ca ou encore accessible via notre plateforme Facebook demain.
C'est bon. Maintenant, on va parler d'un sujet, j'ai l'impression que c'est comme un sujet typiquement féminin, mais pas tant. Il y a des gars qui se posent la question également. On parle de révolution grise, se regarder dans le blanc des cheveux. Je me la pose la question régulièrement. Est-ce qu'à un moment donné, je vais devenir, parce que j'ai les cheveux blancs, je me teins, puis ça me dérange pas de vous le dire, est-ce que je vais passer au gris à un moment donné? Il y a beaucoup de femmes qui le font en ce moment, puis je trouve ça tant mieux.
Oui, puis écoute, on dit que c'est la tendance actuellement est au gris. Donc, on parle également des 50 nuances de gris. Je vous ai partagé un article qui a été publié par le magazine Virage sur notre page Facebook qui s'appelle La Révolution grise, se regarder dans le blanc des cheveux.
C'est intéressant.
C'est vraiment cute comme article. Et dans cet article-là, on apprend, c'est vraiment cocasse, que depuis le COVID, on a une tendance à avoir plus de gens qui se tournent maintenant à garder leurs cheveux naturels. Bon, puis ce qu'on explique, c'est que naturellement, dans le COVID, il y a beaucoup de gens qui ont soit retardé ou qui n'allaient pas chez le coiffeur avec toutes les mesures de distanciation,
ouais.
On ne voulait pas prendre de risques. Et qui finalement se sont aperçus que peut-être ben le gris, c'était pas si pire que ça, puis assumer son âge, ben c'est pas si pire que ça. Puis, dans le fond, ben c'est une tendance qui est observée non seulement ici au Québec, au Canada, mais qui est observée un peu aussi partout dans le monde, puis qui démontre, puis si on regarde même de façon générale dans les publicités que l'on voit, tout ça, on voit de plus en plus de gens dans la cinquantaine qui assument leur âge avec une toiture, je dirais, grisonnante. Donc, je pense que c'est intéressant. Puis ce que dit l'article aussi, c'est que dans le fond, on peut avoir des cheveux qui ne sont pas gris, mais une attitude qui fait en sorte qu'on fait notre âge. Et dans le fond, c'est pas nos cheveux qui définissent notre âge et notre façon d'être et de faire.
Oui, bien, je suis assez d'accord avec toi par rapport à ça. Puis, tu sais, il faut dire aux gens, parce qu'il y a des gens pour qui c'est très important encore, puis il y a des gens qui vont te rencontrer. Des fois, ta repousse n'est pas faite. Puis là, ah, moi, je serais pas capable. Puis là, ils vont voir quelqu'un qui a des beaux cheveux blancs. Moi, je vois plein de belles femmes avec des beaux cheveux blancs. Puis tu vois, les cheveux sont en santé, sont souples. Puis là, tu as une personne qui va dire, hey, moi, je serais jamais capable. Hey, moi, ça a l'air bien trop vieux. Et puis, ça parle pas de la personne qui a ses beaux cheveux gris. Ça parle de la personne qui a de la misère à assumer ses cheveux blancs. Hein, c'est ça? Ses cheveux gris?
Exact. Ouais, tout à fait. Puis... on regarde aujourd'hui là, les tendances actuellement sur les réseaux sociaux, là, le hashtag « gray hair » ou « gray hair transition », la transition des cheveux gris, c'est des mots qui sont de plus en plus recherchés. Puis sur YouTube également, on voit là, qu'il y a beaucoup de conseils et astuces qui ont été développés pour des gens qui vont aller vers une transition vers leur chevelure naturelle. Donc, on voit vraiment qu'il y a une vogue. On parle aussi là, des grands magazines comme Clin d'œil qu'on a au Québec ici, au Vogue, Châtelaine.
Le Québec.
Oui, qui vont beaucoup plus aller maintenant vers ce type de personnes-là. Donc, vraiment, il y a une tendance à revenir à cette origine-là. Puis c'est cet article-là que je voulais vous partager qui nous fait prendre conscience que finalement, une toiture grise, c'est pas si pire.
Absolument. Même que c'est très, très beau, ça peut être très, très séduisant également. Allez, sur ces belles paroles sur les cheveux gris les personnes qui assument leur âge, je pense qu'on va se quitter là-dessus puis on va se retrouver la semaine prochaine.
Salut Annick, on se parle la semaine prochaine.
Merci beaucoup. Il est 11h20.